Audiolib présente. Le cadavre du Palais Royal. De Laurent Geoffrin. Lu par Philippe Sollier. Avertissement de l'éditeur. Avec la parution en l'an 2000 de l'énigme des blancs manteaux et de l'homme au ventre de plomb, Jean-François Parot, diplomate, historien et écrivain, démarrait brillamment la célèbre série Les Enquêtes de Nicolas Le Floch. Le prince de Cochinchine est le dernier des 14 volumes écrits par l'auteur avant sa disparition en mai 2018. Jean-François Parot souhaitait que son héros traverse la Révolution française. En accord avec son héritier, dans ce nouvel opus, Laurent Geoffrin a accepté le défi de continuer l'aventure des héros créée par Jean-François Parot. Chapitre 1. Brandon. Aux vertus qu'on exige dans un domestique, votre Excellence connaît-elle beaucoup de maîtres qui fussent dignes d'être valets ? Beaumarchais. Samedi 26 septembre 1789. À l'entrée de la rue Dauphine, la voiture s'arrête à net. Tiré de sa rêverie, Nicolas se pencha par la portière dont il avait laissé la vitre ouverte pour chasser l'odeur de sueur et de vieux cuir qui empestait la caisse. Le cocher avait serré les rênes qu'il tenait court pour retenir son cheval soufflant et frémissant. Devant eux, un ramas de populace barrait la rue, agglutiné autour d'une boulangerie qui exhalait un parfum de levure et de pain chaud. Sur le pas de l'échoppe, un gros homme au visage blanc de peur et de farine tenait tête à plusieurs femmes qui le menaçaient du poing. « J'ai fini ma fournée de 11 heures !» criait-il d'une voix étranglée. « Il faut revenir à 1 heure, il y aura du pain !»«
Nous attendons depuis ce matin !» rétorqua l'une des femmes. « Tu nous affames !»«
J'ai cuit 60 pains, la mère, ils sont tous partis en un instant. Je ne peux me presser plus. Laissez-moi redescendre au four, vous aurez vos miches !»«
Et si tu les cachais, ces miches, pour les revendre plus cher ?»
Le ton montait sans cesse dans un brouhaha aigu. Nicolas prit son mal en patience, tandis que le cocher tentait de se faire jour en poussant doucement son cheval. Rien n'y faisait. La foule s'enflait des curieux du quartier. Les cris fusaient, et au milieu du vacarme, on entendait les mots « tricheur » et « accapareur ». Loin devant l'attroupement, Nicolas mirait le pont neuf qu'il devait franchir pour atteindre le Grand Châtelet. La longue arche était noire de monde et dorée par la lumière de septembre, tandis qu'un léger vent portait dans cette rue droite les odeurs des caisses envasées, du pain sorti du four et du crottin qui jonchait la chaussée. Il resta sur ses gardes. Il connaissait ces émotions populaires nées de la disette. Très vite, en ces temps de rareté, les incidents se changeaient en émeutes. Pour autant, il était presque arrivé et s'irritait de son retard qui lui ferait manquer son entrevue avec Bourdeaux. Depuis Versailles, il se triturait l'esprit. Pourquoi son ancien adjoint l'avait-il mandé en urgence? Les affaires de Paris ne le concernaient plus. Il n'était plus commissaire au Châtelet. Il était revenu de la terre de Ranreuil à l'appel du roi Louis XVI, qui craignait pour la sécurité de sa famille et comptait sur son expérience pour prévenir les mauvais coups. Depuis la prise de la Bastille, la cour avait peur de la ville. On redoutait les complots, les émeutes et les assassinats, et les énergumènes chauffés à blanc par les folliculaires. Jadis, Nicolas avait veillé sur le roi Louis XV au moment de sa disgrâce, après le coup de poignard de Damiens. Monté sur le trône, le dauphin, devenu Louis XVI, s'en souvenait et voulait un policier sûr auprès de lui, rompu aux intrigues et aux enquêtes, qui soit une main ferme, un cœur fidèle et une tête politique, mais étranger aux manœuvres qui entouraient la couronne. Accouru à Versailles, Nicolas était depuis juillet le cerbère de la famille royale, chargé de débusquer les menaces et de les prévenir. Bourdeau savait bien tout cela. S'il l'avait appelé à Paris, c'est qu'il avait ses raisons, qui ne pouvaient être futiles. Quelque chose de grave s'était produit, que son ancien adjoint ne